Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malt, la bière du 12e joueur.
Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps.
Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club, la poutine du soccer.
Señor Avendano. Ça va?
Bon, toujours. João, comme dit Sofiane.
Oui, une autre émission sans Sofiane. Fausse et les rumeurs comme quoi il est sorti hier. Mais c'est vrai qu'il ne dort pas beaucoup, mais ça n'a aucun lien avec ses sorties nocturnes. C'est des histoires nocturnes, mais tout autre. Est-ce que tu t'es remis du match hier?
J'ai vu la deuxième mi-temps, en fait, sur le coup. Parce que j'avais juste vu. J'étais au Saint-Édouard, donc à côté de l'événement du KNFC, tout ça. Puis après, j'étais à manger avec des amis. On a vu la deuxième mi-temps. J'ai vu la première mi-temps aujourd'hui. Mais honnêtement, quand on est arrivé dans le resto, mon ami a regardé son sel, il a fait 3-0. Je fais, ah, c'est bon, tu sais, 3-0, bon match. Je fais, non, Orlando. Je fais, comme, quoi, 3-0? On part à la mi-temps 3-0 à la maison. Il fait, ouais. Puis ouais, ben, tu sais, t'as vu les buts, on a vu les buts, puis. Ben, c'était une équipe qui était deux coches au-dessus. Hein. L'impact, ça avait l'air. On dirait que quand l'impact, soit sont solides, soit sont super mous, genre. Puis brouillon, puis c'était un match de même hier. Au stade, ça a l'air de quoi?
J'étais pas au stade, moi non plus. J'avais un truc familial, donc je voyais ça en même temps. J'étais un peu déçu d'avoir manqué le trop vieux Nani. Mais j'imagine qu'il va rester assez jeune pour être là encore l'année prochaine. Ouais, moi aussi, moi j'ai entrevu la catastrophe hier là, live, sinon je l'ai revu ce matin le match et on en reparlera plus tard. Ligue des Champions, ouais. La finale, ça te laisse-tu un peu sur ta faim, surtout que l'édition 2018-2019 a tellement été folle, extraordinaire, on a vécu des moments sensationnels et on arrive à la finale, bon, tu sais, tout de suite, rapidement, là, dans les premières minutes de jeu, un penalty qui fait très, très, très mal. Ouais. Ça tue un peu, beaucoup ben, même, le rythme du match, non?
Ouais, je pense en fait, ça l'a faussé tout le match. Tu sais, 20 secondes, un penalty bizarre. Tu sais, c'est un penalty qui te laisse avec un goût amer dans la bouche. Parce que, tu sais, Moussa Sissoko, il met sa main pour indiquer qu'il va centrer au deuxième poteau. Le ballon, il touche un peu le bras, penalty. Puis là, moi, en fait, on dirait que ce match-là, on s'entendait avec Liverpool et le ballon, avec Tottenham contre-attaque. Et là, Liverpool a marqué après une minute et eux, ils sont mis à défendre et ont laissé le ballon à Tottenham. Fait que là, toutes les deux équipes étaient toutes débalancées. Fait que ça fait un match où les deux équipes jouaient entre leur plan de match et devaient s'adapter. Fait que c'était un match un peu plate, honnêtement. Après, c'est une finale avec deux équipes qui se connaissent en plus. Donc, c'est vrai que c'était décevant. Comme tu dis, l'édition était tellement folle qu'on s'entendait un truc de fou encore.
Mais tu vois, ce matin, je réfléchissais je me disais pourquoi le match a été si dull. Pourquoi la finale correspond tellement pas à l'histoire de toute l'édition, au moins des phases éliminatoires. Puis je me suis dit, merde, c'est les matchs aller-retour qui ont rendu ça si fou. Parce que les premiers matchs, ça a un peu ce qu'on a vu à la finale. Un match qui va seulement d'un seul côté, ça débloque pas parce que les joueurs sont un peu crispés. Et quand on pense que la MLS veut éliminer, justement, là, va éliminer les matchs aller-retour, les matchs retour, ça apporte tellement de folie, ça fout le bordel dans les stratégies, dans les schémas. Parce que là, il n'y a plus rien qui compte. Il faut aller chercher le résultat à tout prix. Et c'est ça, et c'est la beauté des matchs retour, parce qu'il y a l'aspect qu'un but ne vaut pas seulement un but, ça peut tellement faire débalancer le match. On ne peut pas commencer à espérer à des matchs aller-retour en finale de Ligue des Champions. Quoique ça a déjà existé, je crois, hein, dans les premières éditions. En tout cas, bref.
Bonne question. Mais je sais qu'en Libertadores, ils faisaient ça jusqu'à cette année. C'était quand même incroyable. Moi, je suis comme toi, je suis gros, gros fan des matchs aller-retour.
C'est bien, hein, ces matchs aller-retour avec un match à Liverpool, l'autre à Londres. Bref, c'est l'argent qui mène le tout, donc on risque pas de voir ce genre de situation-là. Sinon, il y a eu aussi un autre match décevant, celui de la Europa League à Azerbaïdjan. Ça aussi, ça a été assez rapidement conclu. Hein.
Ouais, c'est vrai, Chelsea était en fait beaucoup trop fort, mais juste le match en général, tu sais, l'histoire de Mkhitaryan qui n'avait pas le droit de voyager là-bas à cause des problèmes politiques, des fans qui se faisaient arrêter parce qu'ils avaient leur chandail. Ouais. Finalement, le stade était dégueulasse, il n'y avait pas beaucoup de billets disponibles pour les fans des deux équipes et les fans étaient tellement loin du stade, ils avaient tellement une mauvaise vue. C'était honnêtement, c'était selon moi, même Klopp, je pense qu'il avait dit, c'était vraiment un flop qui ne comprenait pas qui prenait ces décisions-là. Parce qu'effectivement, ça faisait aucun sens. Là.
Rendu là, aussi bien faire jouer cette finale-là en Amérique du Nord parce qu'il va y avoir une meilleure organisation, ouais. Plus de visibilité. C'est... Si l'idée derrière tout ça de la finale, c'est une idée mercantile, aussi bien le faire dans un marché où c'est ça a plus de sens.
C'est clair, tu sais, ou même vu que c'est l'Europa League, fais-le dans une grande ville déjà, une ville, mettons, d'une des équipes finalistes. Ligue des Champions, je comprends. Mais tu sais, t'aurais pu le faire, je sais pas en fait, une ville en Angleterre, une ville en Espagne ou quelque chose de plus proche dans une ville qui a déjà un grand stade, qui a déjà une grosse fanbase. Et en fait, le plus important, je pense, c'est déjà de libérer beaucoup de billets pour les deux équipes finalistes. Ça, je pense que c'est le minimum. Là, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance.
Ils ont même retourné, beaucoup de billets ont été retournés par les deux clubs. Pour la Ligue Europa, là, ça n'a pas trop levé comme expérience.
Ouais, c'est vrai que c'est pas... En plus, mais c'est mercredi aussi, là, c'est en plein milieu de la semaine. J'ai pas compris ça non plus, après ils font ça un mercredi, mais bon.
Bon, est-ce qu'on passe au match?
Let's go.
Bon, 3-0 à saveur de 7-1. est-ce qu'on commence avec le chiffre le plus important? 17 000 spectateurs. Là, on va pouvoir en parler. T'sais, on parle souvent aux spectateurs quand on s'en fout. Là, si on peut oublier ce qui s'est passé sur le terrain, aussi bien en parler, une grosse foule. On s'en fout. D'Orlando, c'est un 4-3-3 contre un autre 4-3-3. Donc, Rowe dans les buts, Juan Moutinho, mais pas le bon, là, le jeune qui a l'air d'avoir 12 ans. Jason Sané et Juan à droite. Certains voulaient que Juan paye le prix, mais bon, c'est pas arrivé, on s'en fout ça aussi. Higuita, Mendes et Will Johnson, le Canadien. À droite, Muller, le Canadien, Akindele comme avant-centre. Et Louis Noni à droite. Il n'est pas très bon. En pénalité. Je ne sais pas pourquoi qu'on le donne. On le sait.
Grosse vedette. Hein.
Ouais, exact. Sinon, de notre côté, 4-3-3, peut-être pour une dernière fois avant quelques matchs. Bush dans les buts, Lovitz à gauche, Diallo jumelé à Cabrera cette fois-ci. Sagna a débuté le match. On va en parler un peu plus tard. Samuel Piet toujours et toujours devant sa défense, jumelé à Taider et Azira. Je dis jumelé, mais Taider est plus souvent jumelé à l'avant-centre. Omar Brownie à gauche, Jackson Hamel faisait un retour dans le 11 partant comme avant-centre avec Urruti, probablement la première fois de sa carrière comme ailier gauche.
Oui, il recule. Il s'éloigne du but, c'est bizarre.
les buts sur pénalité. Nani après une faute de main de Diallo à la 27e minute. 10 minutes plus tard, Tisho Akwandele qui marque un but sur corner. Corner de Chris Muller qui, je crois que le ballon était mal placé sur le coup de pied de coin, mais bon, on n'était pas à un centimètre près. Et juste avant la mi-temps, Will Johnson qui arrive en retard dans la boîte et qui met le dernier clou dans le cercueil de l'Impact de Montréal. L'Impact a fait deux changements. Bon, celui forcé, Bakary Sagna, est sorti à la 35e minute pour Zachary Brouillard. Ça semble être une grosse entorse au pied droit pour Sagna. Ça, c'est long, une entorse. Hein? Et Omar Brownie est sorti à la 75e pour Shamit Shaum. Et il n'y a pas eu d'autres changements. Je crois que Rémi Garde pensait déjà à son speech d'après-match.
Ouais, 3-0, c'était 3-0 rapidement en plus, là, c'était pas mal déjà fini. Je m'attendais à des changements à la mi-temps, en fait. Je pensais que Garde allait faire... Mais en même temps, qui tu veux rentrer pour réveiller l'équipe, c'est?
Exactement. Ouais, exact. Sinon, c'est une belle opération pour Orlando qui était à 10 points. Dans l'Impact de Montréal, se rapproche avec cette victoire-là. Dans les résultats dans l'Est, il y a Chicago qui a perdu, ça nous aide un peu. Bon, Red Bull continue à monter avec une victoire. Le match nul, Columbus-New York City qui nous arrange un peu. New York City, c'est incroyable, ça affiche. Ils ont une seule défaite en 13 matchs, mais seulement 4 victoires. C'est une machine à match nul. Columbus qui fait ses soldes 2-2 contre New York City et Columbus a une nouvelle catastrophique, eux autres aussi, cette semaine avec la 3-1. DC United qui se fait accrocher par San Jose 1-1, eux aussi. Ça remonte. Et ce qui est beau avec San Jose, c'est Wondolowski. Envoler le poste.
Incroyable cette année. Incroyable.
C'est fou.
L'année passée, ouais. Il y avait de la misère. On dirait qu'il y avait de la misère à faire deux contrôles de suite. Des marques à chaque match.
Mais c'est pas des beaux matchs. Là, je l'ai pas vu, mais j'ai vu ces deux derniers matchs. C'est pas terrible ces matchs, mais son sens du positionnement, là, c'est fou. Là. C'est, ouais. Il sait où le ballon va être. C'est incroyable. Sinon, Cincinnati perd encore un autre match. Et dans l'Est, c'est à peu près tout. Il reste en ce dimanche, avant l'enregistrement, il reste Philadelphie à Minnesota et New England à LA. As-tu l'impression, Alec, qu'on est sur le bord peut-être? Si on avait à illustrer, genre, de faire une métaphore avec la saison des Packs de Montréal, là, on est sur le bord, là, on est dans une courbe. Sur une autoroute, il y a une falaise là, au bout. Là.
Ouais.
On est vraiment sur le bord du gouffre si on ne tourne pas là, cette saison. Le prochain match, t'as pas les... tu sais, c'est cliché de dire ça, le prochain match, c'est celui de la saison. Là. C'est le prochain match, mentalement, peut dicter beaucoup, beaucoup ce qui va suivre dans le restant de l'année.
C'est clair, même la période en fait Gold Cup, j'ai l'impression que on peut facilement enchaîner plein de défaites puis s'écrouler là, totalement. Ou on peut faire comme au début de l'année puis rester solitaire. Puis tu sais, aller voler quelques points, mais comme tu as dit, j'ai l'impression que, en fait, c'est vraiment les prochains matchs qui vont décider de la fin de l'année. Puis là, tu sais, la blessure de Piatti, on va en parler sûrement, mais le petit thread qu'il y a eu sur Novilo, Routy qui marque pas, imagine, Sagna se blesse un peu, tu sais, plus que 2, 3, 4 matchs. On est proche, là, on est très, très proche de la falaise. Puis effectivement, moi, malheureusement, ce que je sens, surtout après ce 3-0 à la maison, où l'Impact s'est jamais vraiment rébellé. J'ai peur, là. J'ai peur pour la prochaine séquence de match. Je sens que l'Impact, on est très, très proche là, de la falaise.
Est-ce que ouais. Je veux parler de Sagna. Avant d'aller dans les questions de nos Patreons et sur Twitter,
ouais.
Sagna, troisième match consécutif comme titulaire en 8 jours. Est-ce que tu la comprends, celle-là?
Pas du tout. Surtout qu'avant, Broguillard avait eu des matchs de titulaire et mérité en plus. Selon moi, il joue mieux que Sagna cette année. Et non, j'ai pas compris ça. Surtout que Broguillard le quitte pour l'équipe nationale. Et que Sagna a 37, 38 ans. Non, j'ai absolument pas compris. 3 départs consécutifs en 8 matchs. Je comprends pas.
C'est sûr que c'est pas la cause, c'est une malchance qui est arrivée, c'est pas un muscle qui a lâché, tout ça, c'est le pied qui tourne, c'est une maladresse, c'est une malchance. Ouais. Il aurait pu se blesser aussi en tant que substitut, là. Il arrive pour finir le match 20 minutes, ouais. Il se blesse, on va dire c'est idiot, pourquoi tu l'as fait jouer 20 minutes, tout ça, mais ça reste que quand tu le vois titulaire avant que le match commence, tu te dis bordel, pourquoi tu fais ça? Probablement le joueur sur le banc qui est plus proche d'une place comme titulaire, qui est justement sur le banc parce que Sagna fait du travail, parce que c'est un vétéran, ainsi de suite. T'as cette chance-là de le faire jouer et tu le fais pas jouer, c'est un peu incompréhensible. Et là, quand on voit la conséquence, ça vient nous chercher un peu. Là. Puis là, probablement, je sais pas jusqu'à quel point il y a les relations avec l'équipe canadienne, mais elles doivent être bonnes quand même parce que Mauro Biello est leur assistant, tout ça. Je sais pas jusqu'à quel point on peut discuter avec l'équipe canadienne puis leur dire pourrais-tu retarder de 3 jours, tu sais, c'est pas un must non plus, tu sais, Broguillard, si Broguillard est en sélection canadienne aujourd'hui, c'est beaucoup aussi à cause de l'Impact de Montréal, probablement qu'il serait pas dans la sélection canadienne s'il était resté à la réserve de Lyon, donc c'est peut-être une petite faveur que la sélection canadienne pourrait faire à Rimiguerre.
Ouais, ça serait idéal en fait. Moi, je pense pas que ça va se faire honnêtement. Tu veux avoir les joueurs vraiment dans le groupe ensemble le plus souvent possible. Mais ça nous sauverait, je pense, la vie. Surtout si Sagna manque le prochain match. Parce que là, c'est Cabrera qui va jouer défenseur droit.
Camacho? Je sais plus. Mais il passe beaucoup. Oh my god, c'est beaucoup de choses. Si Raitala est pas là, il faut quelqu'un en défense centrale. Donc c'est soit Camacho, soit Cabrera. Donc ensuite, il faut quelqu'un à droite. À droite, c'est ça. Ça va être encore les deux mêmes. À gauche, c'est qui? Il commence à manquer de body, là.
Ah ouais. Ouais, Cabrera l'a déjà fait à son arrivée. C'était pas si catastrophique que ça. Camacho, je pense qu'il va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lent. Et il est gaucher, je pense, si je me trompe pas. Mais ouais, non, c'est pas super. Tu sais, ça marche 2-3 matchs, mais même plat. Tu sais, même avec Sagna hier et Broguillard, ça s'est pas bien passé. Ouais, commence à manquer de monde. Là. Ça, comme je t'ai dit, les prochains matchs, la prochaine séquence de matchs, ça va faire mal.
Bon. Puis dernier sujet avant d'aller dans les questions, parce que celle-là, elle m'énerve beaucoup, beaucoup. Novilo, est-ce qu'on est vraiment étonné?
Ouais. Ben, c'est ça que j'allais dire, en fait, est-ce qu'on est vraiment surpris? Tu sais, j'avais vu un meme, puis j'avais envie de le faire, mais j'ai oublié. C'était juste un gars qui avait
tweeté.
C'est juste un gars qui avait tweeté déçu, mais pas surpris, puis là, tout le monde quotait ce tweet-là, genre. Puis tu sais, c'est exactement avec ça que nos villas, tu sais, on est déçu, mais personne n'est surpris, tu sais. Puis en fait, moi, ce qui me fâche le plus, c'est que c'est pas un petit risque qu'on a pris, là. Tu sais, c'est un risque à 750 000 US par année, et après avoir vendu Alejandro Silva, qui était rendu un très bon joueur sur le terrain. C'est juste frustrant. Tu sais, je veux dire, c'est pas le seul joueur qui sort et tout. Là. On le sait, il y en a d'autres. Mais lui en particulier, après tous les espoirs, tout ce qu'il avait dit, tout ce que Rémi Garde surtout avait dit, c'est juste frustrant. C'est juste frustrant. Mais après, comme tu as dit, qui est surpris, tu sais?
Mais moi, ça m'énerve parce que, tu sais, on vante beaucoup, beaucoup les qualités de Rémi Garde. On le présente comme si c'était un vétéran coach de 20 ans. Mais il a été naïf. Il a été tellement naïf dans un contexte où chaque sou compte dans une masse salariale, ouais, de faire ce genre de pari-là envers un gars que lui-même connaît, que lui-même a vu de ses yeux l'historique. Et d'y aller comme ça, all-in, avec un contrat de 2 ans, tu sais, le salaire, peut-être qu'on est chanceux, puis peut-être qu'une grande partie de son salaire, c'est lié à des bonis, puis qu'éventuellement, finalement, par le fait qu'il manque des matchs ou qu'il n'y a pas les statistiques qui viennent avec, on va peut-être récupérer une bonne partie de son salaire. Ouais. Ça reste que si on récupère une partie du salaire, ça veut dire un truc, mais au classement, on récupère pas de points là, avec ça. Okay. Tu sais, puis toi et moi, on en entend des histoires pas seulement sur Novilo. On a entendu, que ce soit cette saison ou dans les saisons précédentes, on a entendu des histoires qu'on hésite et qu'on, à chaque fois, on se dit, oh, on le fera pas parce que ultimement, ça va nuire au club. Le joueur, moi, je m'en fous. Ouais, si un gars fait une connerie et qu'on me le dit, ouais, ne pas l'écrire, à la limite, je m'en fous. Je veux pas défendre le joueur, il est assez grand, c'est un professionnel. Ouais. S'il fait le con, ben, qu'il subit les conséquences. Exact. Mais trop souvent, sortir ces conneries-là va nuire au club. C'est là que la ligne est compliquée. Puis des fois, je vois aussi les gens être très, très sévères envers les médias mainstream. Mais mettez-vous à leur place. Ces gars-là, ils les voient, ils les côtoient tous les jours. Hein. C'est pas qu'ils deviennent nécessairement des amis, mais ils doivent travailler avec eux. Ils peuvent se faire barrer assez rapidement, pas de façon officielle, parce que oui, ça existe, être barré de façon officielle par un club. Mais quand tu n'as plus accès à des joueurs, ton travail devient vraiment compliqué. Toi et moi, par exemple, moi, avoir été bloqué par Jason Vargas sur Twitter, je savais même pas qu'il était sur. À la limite, on s'en foutait, je m'en fous complètement, je trouve ça très, très, très drôle. Ouais. Mais un gars qui travaille, puis sa job, c'est d'aller rencontrer à tous les jours ces joueurs-là, puis avoir une espèce de boycott généralisé, c'est compliqué. Donc, ils peuvent pas tout dire. Ils peuvent, jusqu'à une certaine limite, donner des indices. C'est pour ça, des fois, il faut écouter ce que les gens disent, puis chaque mot est important, pas juste les journalistes, le staff aussi. Tu sais, Rémi Garde, quand il parle, là, chaque mot, là, il faut y penser, les pauses aussi, il faut analyser ce qu'il est en train de dire. Il est en train souvent d'expliquer c'est quoi qui se passe en réalité.
Non, c'est clair. Normalement, c'est un très bon point que tu amènes. Après, qu'est-ce que ça donne, tu sais, dire qu'un gars sort dans un bar ou quoi que ce soit, tu sais, ça amène rien à personne. Et là, justement, moi, c'est pour ça que j'étais étonnamment surpris, en fait, que ça s'est sorti hier et que c'est sorti à travers les médias mainstream aussi. Et que, tu sais, il y a eu des rants, là, tu sais, Filosa qui a carrément dit qu'il devait le débarrasser de lui. Puis quand même des réponses assez agressives, ben, pas agressives, mais assez fortes. Puis en fait, je me suis dit, est-ce que finalement, on souhaitait que ça sorte? Parce que justement, en additionnant toutes les informations que tu as tweetées justement aujourd'hui, qui disaient qu'on peut briser le contrat si le joueur n'est pas professionnel, est-ce que c'est peut-être ça là, que l'Impact veut faire?
Ouais, je ne sais pas si c'est suffisant. T'sais, on se souvient de l'époque, tu sais, l'histoire un peu bizarre avec Vondré Lefebvre quand il avait tweeté ou Instagrammé, je ne sais plus trop, avec un gun.
Oui, puis, Instagram, hein? Je pense.
Ouais, et puis il avait fait une phrase un peu bizarre sur sur Trump, et ainsi de suite. On avait essayé, ça avait été un peu dit que Lefebvre avait été congédié, puis finalement, non. Ouais. Je crois qu'une convention collective, là, pour ceux qui travaillent avec des conventions collectives vont comprendre ce que je veux dire, c'est compliqué. Tu lis une phrase, puis selon que tu es employeur et employé, c'est pas toujours la même interprétation. Hein, tu peux avoir ensuite des avocats qui embarquent là-dedans. Je serais hyper étonné qu'on puisse se débarrasser entre guillemets du contrat de Novilo. Mmh. Puis en même temps, ça sert à quoi de se débarrasser? Et il va rester imputable à la masse salariale. Il va falloir attendre probablement seulement à l'entre-saison. À l'entre-saison, tu as le droit de te débarrasser d'un contrat garanti par avant que la saison commence pour ainsi libérer cette place dans la masse salariale. Mais en même temps, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est comment ça se fait qu'il est là?
Si on l'envoie en rehab, c'est qui paye ça? C'est dans la masse? Ou?
D'après moi, c'est toujours. on pourrait l'envoyer, en tout cas. J'espère que les gens vont être assez courageux dans le stade pour lui faire passer le message. Parce que...
Ouais, je pense pas. Ben, comme je t'ai dit dans les podcasts, Mancuso, il se faisait ovationner quand on le présentait à chaque fois quasiment. Ben, quoique j'avoue que c'est différent. Novilo, c'est plus un manque de professionnalisme.
Oui, tout à fait.
Mais hier, à 3-0, ça sifflait à la mi-temps. Ça m'avait surpris.
Oui, mais pas après. Mais probablement, ceux qui ont sifflé sont partis. Ouais.
mais mon fil Twitter, c'était beaucoup de monde. D'habitude, on chiale parce que le monde s'en va à la fin. Puis là, c'était l'inverse. C'était comme ça, prend fois que je m'en vais. T'sais, j'ai vu beaucoup de tweets comme ça. Ça prend fois que je m'en vais avant la fin. Puis je regrette pas.
C'est tellement une occasion ratée. Tu sais, je faisais des blagues tantôt avec les spectateurs. Mais tu sais, 17 000 spectateurs, c'est, je pense, la meilleure foule de la saison. Puis c'est la pire performance.
Ouais. En plus, moi, je m'attendais pas autant de monde, là, vu qu'il y avait justement la finale de Ligue des Champions et tout ça. J'avais un petit peu peur.
Le concept des assistances à Montréal, c'est un concept que je pourrais jamais comprendre. Et à chaque fois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a plus de monde, bref.
C'est vrai.
Mais probablement que plusieurs personnes sont restées un peu plus tard à cause du moitié-moitié. C'est un bon concept d'annoncer les numéros de moitié-moitié à la 75e minute seulement.
On reste pas pour le jeu, mais tu restes pour le moitié-moitié. C'est triste un peu quand même.
Bon, on va passer aux questions du Patreon en priorité. Étienne Martel nous dit, selon vous, est-ce que l'Impact devrait ramener Taider et Piatti la saison prochaine?
Piatti, oui. Taider, non. Pas parce qu'il, encore une fois, c'est pas un mauvais joueur. C'est juste que je pense que pour le salaire qu'il a, pour le statut de joueur désigné qu'il a, je pense pas qu'il est assez bon pour la MLS. Tu sais, dans le fond, MLS, ton joueur désigné, ça doit être un gars qui met des buts, un gars qui est décisif. Tu sais, il y a un gardien, un joueur désigné, ça peut vraiment marcher. Tu sais, il faut vraiment MLS, ton joueur désigné, tes joueurs désignés, ils te fassent la différence à chaque match. Puis Taider, je pense pas qu'il l'a fait. Ça reste un très bon joueur. Mais pour moi, cet argent-là, si on pouvait le mettre dans un milieu peut-être plus offensif, peut-être qui va faire plus la différence, plus de passes décisives, plus de buts, je pense que ça serait mieux pour l'Impact.
Mais tu vois, son statut de joueur désigné fausse tellement notre perception. Parce que
absolument.
Est-ce qu'on est capable d'aller chercher mieux pour 700 000 $? Parce que c'est à peu près ça, King and Taider.
Ouais.
Et puis je vraiment pas convaincu que la réponse est oui. Là. On le voit comment on a de la misère à aller chercher des joueurs. Moi j'aime la personnalité de Taider. Je trouve juste que ça fait un mauvais casting. Puis le mauvais casting, est-ce que c'est de sa faute ou c'est de la faute à Rémy Garde? Je m'explique. Il joue continuellement comme deuxième avançant. Il est toujours dans la boîte. Le fait d'être toujours dans la boîte le rend tellement après vulnérable pour ses responsabilités de milieu de terrain. Il dépense énormément d'énergie pour revenir et devient moins efficace en fin de match à cause de ça. Et quand je vois tout ça, je me dis, merde, est-ce que c'est une consigne de coach? Si c'est une consigne de Rémy Garde, mais c'est de la faute à qui si Saphir joue mal? C'est Rémy Garde qui voit le trou qu'il est en train de créer dans son schéma en jouant ici. Si c'est pas une consigne de Rémy Garde, comment ça se fait qu'il ne le replace pas en cours de match? Comment ça se fait que ça fait 15 matchs qu'il joue de cette façon-là et que ça ne cause pas de problème?
Par défaut, je pense, parce qu'aucun autre milieu peut faire ce rôle-là. Jay Miley aurait été parfait. Juste mettons, moi, j'ai le choix entre Tyler et Jemaili. Je prends Jemaili parce que justement, tu as Azira Piet, qui sont, mettons, Piet c'est un 6, Azira c'est entre un 6 et un 8. Puis Jemaili, justement, lui, il veut jouer deuxième attaquant comme ça. Il veut jouer le box-to-box, entre guillemets, qui va marquer des buts, qui va prendre des frappes.
Et lui, il y a les qualités pour les faire.
Exactement. Et Tyder les a pas. Et encore une fois, c'est pas vis-à-vis Tyder. Je pense pas que c'est un mauvais joueur. Mais en MLS, pour moi, quand t'es joué. Encore une fois, oui, le joueur désigné, ça change la perception, mais c'est les lois de la ligue, c'est les contraintes de la ligue. Et ton joueur désigné doit être efficace, doit marquer des buts, doit avoir des passes décisives. Et pour moi, Tyder le fait pas assez. Si on arrive à le transformer en time player, puis ramener un joueur désigné ouais. comme Jemaili, par exemple, à ses côtés, je pense que ça serait tellement profitable pour l'Impact.
Je pense que oui. Malheureusement, j'ai pas l'impression que c'est le plan de l'Impact, mais ouais, oui, non. Ça serait beaucoup plus logique. Piatti, la catastrophe Piatti de cette saison avec la nouvelle qui, probablement, on a dit 2-3 mois, mais avec l'historique des blessures de l'Impact de Montréal, les 2-3 mois deviennent, on peut souvent le doubler.
C'est combien de fois qu'on se dit, imagine si Piatti se blesse? Là, cette année, ça arrive, puis on voit les matchs, puis on est comme, OK, ouais, c'est comme on avait imaginé.
Tout à fait. Puis c'est de la faute à qui? Non. C'est de la faute du club qui n'a pas prévu le remplacer de façon adéquate avec des joueurs. Le 6 millions, c'est sûr que ça vient chambouler complètement ton budget. Mais en même temps, ça va peut-être nous protéger dans le futur, dans le sens que Piatti, retourner en Argentine avec cette histoire là, de genou fragile, c'est pas une garantie qu'il va y avoir un club ouais. qui va être intéressé à Nacho Piatti l'année prochaine en Argentine pour faire l'investissement qui vient avec. T'sais, même s'il demande, il ne pourra pas demander l'équivalent, là, il ne fera pas encore un 5 millions l'année prochaine, mais même à 2 millions, c'est pas tous les clubs, un, qui est capable de le payer, et deux, ceux qui sont capables de payer 2 millions, est-ce qu'ils vont vraiment oser aller chercher Nacho Piatti?
C'est clair. Déjà, même à 100%, là, il n'y aurait pas eu 5, 6, 7, même pas 4 millions, je pense, en Argentine. Il y a quoi? Il y a 35, 36 ans. Il marque des buts, mais en MLS, tu sais, en Argentine, je pense pas qu'ils considèrent la MLS vraiment comme supérieure à leur championnat. Donc, ouais, je pense. Et l'option, je parlais de ça avec le monde qui est investi à Saint-Étienne, j'ai oublié, c'est qui? L'option, c'est le club qu'il a ou c'est Piatti qu'il a pour l'année supplémentaire?
Je suis presque convaincu que c'est le club, mais en même temps, on s'en fout parce que la relation entre Piatti et Nacho, entre Piatti et Montréal, elle est amicale dans le sens ouais. où même si Montréal active l'option, puis probablement ils ne vont pas l'activer parce que l'option elle doit être assez haute, si Nacho ne veut pas venir et si Nacho préfère retourner en Argentine, Montréal ne va pas garder cette option-là pour récupérer du transfert. Ils vont le laisser aller. C'est parce clair. Que de toute façon, ils n'ont pas payé de transfert pour aller le chercher. C'est un juste retour de faveur.
Clairement, je pense qu'il va arriver d'ailleurs, c'est que l'Impact va juste lui proposer un an de plus, mais un salaire coupé en deux.
Je pense que oui. Peut-être que Nacho va finalement se retrouver une année supplémentaire. Que cette blessure-là va nous aider à le garder une année supplémentaire.
Ouais, ça, honnêtement, ça me ferait de la peine s'il reste pas et ça finisse sur une année où il joue pas parce qu'il est blessé.
Glatmap nous demande plusieurs réclament de gros changements dans l'effectif. Est-ce vraiment réaliste? Je suppose qu'une transaction intra-MLS est possible. Quel joueur pourrait nous aider et qui serait disponible? Oh, oh, oh.
Ben, y a beaucoup de joueurs pour nous aider, mais le truc, c'est qu'on n'a rien pour donner en échange. T'sais. On n'a aucun joueur que, mettons, qui a une valeur intra-MLS intéressante, là, selon moi. C'est Piet, mais c'est Piet, tu le touches pas, on s'entend?
Non, tout à fait. Mais ça serait une catastrophe. C'est la fin de la franchise.
Ouais. Ben ouais. Tu sais, je veux dire, je sais pas, tu sais, c'est Urruti. On l'a eu pour une raison, là. Tu sais, on peut payer cher, je sais pas. T'sais, je vois pas. Beaucoup de joueurs pourraient nous aider, tu sais. Un 6, un 8 plus offensif, un vrai 9. Un autre allié avec Piatti out, puis que Novillo, il est sur le party. Mais, tu sais, on a rien à donner pour, tu sais. Même, je pense que l'argent, on a de l'argent pour Routy, si je me trompe pas, non, une transaction.
Ouais, pas une tonne, mais oui.
Ouais, tu sais, je sais pas, il nous en reste combien on est prêt à donner. Ça est difficile, mais selon moi, à faire une transaction.
En même temps, moi, je veux pas une solution. Je veux pas qu'on prenne une décision comme ça sur le coin d'une table pour régler une situation à court terme.
Ouais.
Là, on est là aussi, là, au niveau du futur de cette franchise-là, là, on est sur le bord là, avec le statut de Piatti à régler, tout ça. Ouais. Il faut pas viser seulement les playoffs comme solution à court terme. Mm-hmm. Il faut avoir en tête plus gros que ça. Tu sais, c'est le fameux plan là, de la MLS Cup là, ou d'être potentiellement un candidat à la Coupe MLS. Il faut prendre des décisions qui vont avoir du sens autre que 2019. Il faut avoir du sens pour les saisons 2020 et 2021. Donc, qu'on prenne le temps de... Tu sais, s'il y a une occasion, tant mieux. Si une occasion se présente en MLS, tant mieux. Mais il faut commencer à recruter de façon intelligente pour éviter les catastrophes qu'on a déjà fait avec Camacho, qu'on a fait avec Novillo. Je veux pas qu'on se retrouve avec un autre jambon, comme dirait l'autre. Avec le Québec de Montréal, c'est-à-dire, on va aller chercher tel gars parce que, ce gars-là a déjà bien fonctionné, entre guillemets, avec Oroti, puis il va peut-être avoir un sursaut d'énergie ou il va revenir à la vie parce que, non, on veut pas de ça. On arrête d'amener des joueurs qui n'ont pas fonctionné ailleurs pour les faire fonctionner ici. Moi, je veux qu'on aille chercher des joueurs qui fonctionnent ailleurs, puis qui vont maintenant prendre un autre niveau ici. Puis quand je pense à ça, c'est un gars comme Brownie.
Exactement.
Il est allé chercher parce que là où il venait, il y avait du succès dans une catégorie avec un niveau aussi inférieur, mais c'est pas grave, on a pris un pari, mais un pari tellement plus intelligent, là, avec aucun commitment. Là, on est là avec un 50 000, avec la formule de prêt, option d'achat. Il faut faire des transactions comme Piet. Il faut faire des trucs comme Brownie. Il faut arrêter de faire des Mancuso.
Non, c'est clair. Puis tu sais, en ce moment, il y a une petite hype là, des joueurs de entre 20 et 25 ans qui voient la MLS comme un tremplin. Et tu sais, à l'image de... On oublie des fois, mais quand Piatti est arrivé, il avait dit, moi, tu sais, je vais être bon à Montréal pour après aller à New York ou à Los Angeles. Et c'est correct. Là, si l'impact, on peut être ce tremplin-là, mais c'est correct. Au pire, on va faire de la revente ou on va peut-être aller rechercher de l'argent après. Mais il faut aller chercher ces joueurs-là qui veulent une visibilité. La MLS donne une visibilité maintenant. Et comme tu dis, les joueurs de 32-35 ans qui veulent finir la carrière avec un beau chèque puis une belle vie en Amérique du Nord, c'est correct d'en avoir un ou deux peut-être.
Mais ça dépend. Ça dépend de leur professionnalisme.
Aussi,
personne ne va critiquer le fait d'avoir Sagna à Montréal.
Ouais, c'est clair.
Et c'est clairement ce que Sagna est en train de faire. Sagna est venu à Montréal parce qu'il dit ça va être mon dernier contrat.
Ouais.
J'ai connu Arsenal, j'ai connu les grandes ligues, j'ai fait un tour en Italie, c'était pas super intéressant. Il était avec, je me souviens plus de quelle équipe, là, une équipe qui est descendue en Série B.
J'ai oublié. Non, mais j'essaie de qui tu parles.
Mais bref, il se dit, mais tant qu'à vivre une situation comme ça, aussi bien vivre une expérience différente, faire le tour de l'Amérique au frais d'un club de la MLS.
Ouais.
Non, mais en même temps, il apporte du vécu, une belle influence sur le club, sur les joueurs. Ça établit des liens futurs qui peuvent servir. Tu sais, oui, c'est ce genre de recrutement-là, c'est intelligent. Tu sais, on ne peut pas être contre ça. Mais quand chercher des joueurs avec d'énormes points d'interrogation autour de lui. Puis après, on se dit, ah merde, on est tellement pas chanceux. Il est toujours blessé. Merde! Est-ce qu'il a déjà été capable d'aligner une saison complète? Non, donc tu ne sois pas surpris.
Ouais, c'est Benevento. Je viens de faire une petite recherche.
Oui, c'est ça.
Ça me trottait dans la tête.
Je les voyais en orange et jaune, c'est ça.
Oui, exactement. Mais comme tu as dit, je veux dire, Sagna, c'est une valeur sûre. Qu'on a été payé même pour Didier, c'est une valeur sûre. Diallo, Fanny, c'était toutes des valeurs sûres, mais
Diallo, il y avait un point d'interrogation, donc il fallait pas être surpris, tu sais, une blessure, il est en Ligue 2, c'est ça. Il arrive en fin de carrière, il se pète le tendon, il faut pas être surpris, il faut pas dire ah non, malchance, mais non, ça faisait partie des éléments possibles quand tu vas chercher un tel joueur.
Puis tu sais, t'en parlais tantôt, quand t'as une masse salariale, tu peux pas te permettre de risquer sur un gars à 700, 800 000, genre. Ça fait pas de sens. Tu sais, un Novillo, Camacho, à la limite, je pense, sur le papier, c'était pas un risque qui avait l'air si fou que ça. Là. Je veux dire, il était capitaine en division 1 en Belgique.
On était juste étonné par le salaire et ce que ça coûtait en transfert.
Oui, c'est ça exactement. Mais tu sais, un Novillo, c'est un risque tellement trop risqué, j'ai envie de dire, là, tellement mal calculé. Tu sais, Mancuso, c'était la même chose. Tu sais, quand tu regardes maintenant toutes les autres équipes, ce qu'ils font, leur risque, entre guillemets, là, c'est des gars quand même jeunes. Puis tu sais, on s'entend, quand t'as 21, 22 ans, tu peux pas te rater deux années de suite en MLS. Là. Ta carrière est finie après. Fait que tu sais, eux, ils ont faim, là. Ils ont envie de démontrer qu'ils peuvent être bons dans une équipe en MLS où t'as une belle visibilité. Fait que eux, ils vont démontrer quelque chose. Ils vont avoir faim. En ce moment, pourquoi Shami Chom, c'est un joueur qui ressort le plus? Parce qu'il y a quelque chose à démontrer. Kreliki, l'année passée, c'était un no-name complètement, puis il a aligné quelques bonnes performances parce que, encore une fois, il voulait démontrer quelque chose. Puis ça, faut aller chercher des joueurs avec cette attitude-là, là, des joueurs qui veulent jouer, qui veulent être titulaires dans une équipe. Là.
Dernière question Patreon de LP Bardugnetis. Il nous demande, entre autres, un bilan de demi-saison. On va peut-être en faire un pendant la pause de la Gold Cup. On va peut-être faire un petit bilan. Sinon, il nous demande, quelle part du blanc Rémi Garde doit-il prendre pour ses performances récentes de l'équipe, que ce soit au choix tactique, l'animation dans le tiers offensif, le niveau, justement, il parle souvent de ça, du niveau d'effort de ses joueurs. Est-ce que Rémi Garde doit être un petit peu pointé du doigt?
Ben absolument. 100%. Puis, si je veux dire,
tu sais qu'en disant ça,
ouais, je vais me faire attaquer.
Tu vas avoir une mauvaise semaine.
Ouais, mais j'habite plus sur le plateau, je suis correct. On va même attaquer. Mais je veux dire, oui, je veux dire, okay. C'est l'entraîneur, c'est lui qui est responsable des recrutements. Et moi, quand un entraîneur, tu fais juste me dire on n'a pas assez de talent, pas assez d'efforts, ben pourquoi tu es venu entraîner cette équipe-là? Si tu n'es pas capable de travailler avec ces joueurs-là, avec ces outils-là, ben va entraîner, tu veux dire, va au Barça, va au Real. c'est trop facile comme ça, c'est trop facile de dire ça. Et moi, je veux dire, je ne l'ai pas trop dit l'année dernière parce que j'allais me faire lapider direct, mais je ne sais pas si tu te rappelles, en fin de saison, tous les tweets c'était ah, mais Rémi Garde, tu sais, il y a une belle continuité, une belle progression, genre l'année prochaine. Et moi, je regarde, moi, personnellement, j'ai vu aucune progression, j'ai vu aucune continuité, j'ai vu une équipe qui est juste arrêtée, justement, d'essayer d'avoir un soccer de possession ou quoi que ce soit, et ça faisait juste le minimum. Et cette année, Rémi Garde, il l'a montré sur le terrain. On veut faire 0-0 et espérer en mettre un à la fin.
T'sais, on en a parlé la semaine passée, là. On a vu une amélioration dans la structure défensive, on voit ce club beaucoup mieux organisé pour défendre.
Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils défendent mieux parce qu'ils n'ont plus le ballon dans les pieds, tu sais.
Ça explique beaucoup de choses, en effet, c'est ça. C'est sûr que quand tu ne te projettes pas à l'avant puis que tu restes à 10 devant ton gardien, c'est plus facile à défendre, c'est vrai. Mais on l'a dit, là, pour répondre à Louis-Philippe, l'animation offensive, elle n'existe pas. Mmh. Elle n'a pas progressé. T'sais, on faisait des blagues là, qui étaient mal comprises, mais quand on disait la stratégie de l'Impact de Montréal, c'est « pass the ball to the Italian guy ouais. ». Puis là, notre Italian guy, c'est l'Argentin d'origine italienne. Ce n'est que ça. Et là, présentement, c'est quoi qui se passe? On a changé de côté. On a juste donné le ballon au gars qui veut. Et j'ai trouvé ça bizarre. J'ai vu un Brownie être déjà un peu écœuré. Ouais. Ne pas passer le ballon, choisir à qui le passer, déjà lever les bras dans les airs parce que les courses ne se font pas. Je comprends pas. Moi, ça me dérange de ne pas voir un coach debout et donner des consignes offensives au club. Ça me dérange beaucoup, 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 beaucoup. Mm. Tu sais, je comprends qu'être assis, tu passes le message, là, mais bordel, il y a des choses que tu peux changer en cours de match. C'est avec clair. Des consignes. On ne le voit pas trop souvent, ça.
Ouais.
Puis, quand on parle Rémi Garde, oui, c'est toujours compliqué de parler tranquillement de notre coach ici à Montréal. Parce que malheureusement, Montréal est séparé en... comment je dirais ça, sans être trop méchant, là? C'est un peu sectaire, tu sais. Je veux dire, je vais utiliser nos propres expériences. Saphir Taider est défendu, entre guillemets, par Sofiane.
Oui.
Donc, quand il se passe quelque chose, on s'enligne vers Sofiane pour parler de Saphir, ainsi de suite. Mm-hmm. Tu sais, toi, mettons, on va te taquiner sur Barça ou tout ce qui est en lien avec Barça, tout ça, ouais. ou avec tes relations, avec tes origines mexicaines, tu sais, on va te taquiner, puis toi, tu vas sentir un besoin de te défendre. Et avant Rémi Garde, quand on commençait à parler des problèmes de Mauro Biello, ben, tu avais la vague italienne pour la défendre.
Ouais.
Là, c'est impossible de parler de Rémi Garde sans avoir la cohorte française venir à tout prix. Puis quand je dis tout prix, là, c'est sans aucune distinction, là, sans porter attention aux commentaires, mais seulement aux messagers. T'sais. Quand on essaye de parler de ce qu'on n'aime pas de Rémi Garde, tout de suite, on va te pointer du doigt en disant, ben, tu sais, c'est un professionnel, lui, il sait ce qu'il fait, toi, ferme ta gueule. Mais non, tu sais, ça se peut qu'il se trompe sur des choix.
Ouais, c'est trop facile de dire ça.
C'est trop facile. Juste regardez à San Jose, là. Il a commencé la saison en écartant Wondolowski. Pourquoi? Parce que Hamilton, lui, il avait un certain concept, une certaine idéologie de son avancement. avec son expérience personnelle.
Ouais.
Il arrive, il voit le vétéran nord-américain, que sur papier, tu regardes ça, tu dis, ce gars-là, c'est mon joueur de foot, il est déjà chanceux d'avoir tous ces buts-là. Ouais. On va le laisser sur le banc, puis il fera les promos pour notre équipe, mais ça prend un peu plus de temps, puis probablement à l'interne, il devait avoir des gars qui disaient, merde, Wondolowski, oui, peut-être que tu n'aimes pas ce que tu vois à l'entraînement, mais en cours de match, là, il aimait dedans. T'sais, on a eu ces mêmes réactions. On a eu ces mêmes genres de réflexions-là auparavant avec des joueurs comme Marlus. On disait, putain, Klopas, pourquoi tu mets tout le temps à Marlus? Ouais. Il dit, mais non, Klopas doit savoir, mais il est où Marlus aujourd'hui? Ouais. C'est ce genre de conversation-là qui est impossible sur l'impact de Montréal, parce que Montréal est tellement séparé par des origines différentes et des concepts aussi différents. Ça existe moins ailleurs. Tu sais, je veux dire, moi, dans mon expérience, si je regarde au Portugal, on voit qu'on... le coach va être contesté. Tu sais, il va être contesté par son choix, mais ça sera pas... On ne va pas aller chercher un fait social pour dire que lui est bon ou lui n'est pas bon comme coach.
C'est clair. Encore une fois, on en parlait la semaine dernière, puis on revient à la culture sportive qu'on a ici, par exemple, au hockey. Les contrats, comment tu juges un joueur, un coach, c'est beaucoup par ce qu'il a fait dans le passé. Mais là, on peut pas faire ça. Surtout que, mettons, Rémi Garde, oui, il a réussi à Lyon, et il a fait un truc catastrophique en Angleterre. Et là, tu viens à MLS. Mais... Tu sais, c'est trois contextes complètement différents. Là. Tu peux pas amener Lyon à l'Impact, tu peux pas amener Aston Villa, je pense qu'il était, mais c'était catastrophique, là. Je veux dire, c'était horrible ce qui est arrivé à Aston Villa quand il était coach. Là.
Ouais, là, personne souvent, en parle, là. Non, ben, c'est ça, mais oui, parce que c'est... Oui, parce que... As-tu le goût de parler contre Rémi Garde? Tu le sais que tu vas passer une très mauvaise journée. C'est vraiment compliqué, tu sais. Puis souvent, sur Twitter, il y a des rants là, qui sortent sur... Quand certains partisans de Aston Villa veulent faire des blagues là, sur une journée sur les mauvaises expériences de coach, ouais. Rémi Garde, c'est un nom qui sort beaucoup. Il y a beaucoup de blagues qui se fait sur lui, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est injuste? Probablement. Donc, je l'ai pas vécu live, cette expérience-là. Mais en face de lui, un demi-dieu qu'on peut pas contester, c'est usant.
Ouais, et peu importe qui le coach. Donc oui, absolument, Rémi Garde mérite, doit être pointé du doigt pour du blâme de l'équipe. Peut-être pas de tout, mais il doit prendre le blâme aussi. Je veux dire, c'est l'entraîneur, c'est son staff qui a amené au complet, sauf Wilfried Nancy. Et c'est lui, les grosses recrues, là, comme les gros risques, comme on parlait tantôt, c'est Rémi Garde.
Exact. Bon, on va aller pour nos questions Twitter. On va commencer avec l'anti-licorne par excellence, Marc Beltête. il va vivre une bonne semaine. Salut Marc. Il nous demande tout de suite comme ça, simplement un hashtag, no playoffs, point d'interrogation. Je vais répondre tout de suite. La réponse, là, sincèrement, je pense que c'est que l'Impact va faire les playoffs. Parce que sous l'Impact de Montréal, c'est pire.
Ouais, c'est pas faux.
Il y a vraiment des gros trous. Les clubs derrière sont pas capables d'aligner les performances. Montréal est allé chercher, heureusement, de l'avance. Probablement qu'on va être très, très, très content en fin de saison avec tous les matchs à domicile. Là, ça va aider le club. Ouais. Si par miracle, Piatti, sa blessure est réellement. Un deux ou trois mois, on va être capable d'avoir un bon mois de Nacho Piatti pour aller chercher des points. Je suis pas tout à fait inquiet, mais ce qui m'inquiète, c'est tout ce qui se passe autour du club, parce que oui, il se passe des affaires, et ce club-là est fragile mentalement, parce que quand l'histoire du passeport de Novillo est sortie, on a mangé une volée de 7 points. Là, il y a encore clairement, hein, on l'a vu, une histoire encore de Novillo. On n'a pas mangé une volée de 7-1, mais on a mangé une volée qui avait des impressions de 7-1. On n'a juste pas pris une volée de 7-1 parce qu'on était à domicile, puis Orlando, à la mi-temps, ils se sont dit, ben c'est assez, on est ici à 3-0, on n'a pas besoin de plus. Ouais. Donc, mentalement, cette équipe a besoin, a vraiment de la difficulté à subir des chocs comme ils ont. C'est de la faute à qui? Est-ce que c'est de la faute du manque de leader au niveau des joueurs? Est-ce que c'est le staff actuellement qui n'est pas capable de remotiver ses troupes? Il y a beaucoup de points d'interrogation qu'on ne peut pas répondre parce que nous, on est loin de tout ça. Mais malgré tout, je ne pense pas que la place en séries éliminatoires de l'Impact de Montréal est en danger. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Moi, j'ai un mauvais ressentiment. J'ai l'impression qu'on va pas faire les séries encore. Comme je disais tantôt, j'ai vraiment l'impression que la séquence qui s'en vient, j'ai vraiment peur qu'on s'écroule totalement. Qu'on reprenne des volées. Surtout, souvent, c'est l'absence de Piet, je pense, qui va me faire mal. Là, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu un des seuls, mais lui, c'est un des beaucoup qui encourage. C'est pas le gars qui va abandonner pendant un match, quelque chose comme ça. Mais les Cabrera, les Camacho, ceux qui étaient là au 7-1, c'était de pire en pire. Lovitz, moi, je pense qu'il est en pente descendante. Je vois beaucoup de red flags. Je vois rien qui me dit que c'est pas grave. On va remonter, on a eu une mauvaise séquence. Au contraire. Ben,
tout ce que tu as décrit existait, mais en début de saison où on avait un bon classement puis qu'on se faisait dire par tout le monde, regarde le classement puis tout est beau. Tout ce que tu as dit, c'est pas de la nouveauté, là. C'est pas arrivé dans les deux dernières semaines. Là.
Non, c'est pas faux, mais on avait plus de réussite au début de la saison, je pense. Et on avait l'espoir. En fait, surtout, on avait l'espoir. On disait Piatti s'en vient bientôt. Là, Piatti, c'est trois mois, je pense, au moins, parce que Guégard a dit deux mois, il croit pas trop. Là. Trois mois, là, on se dit, ça fait mal, ça. Là, on a plus de six. Contre LAFC, sans six, c'était des autoroutes dans l'axe. T'sais. Je sais pas, j'ai peur. Moi, j'ai peur. Moi, je pense, je vais pas dire 100% de nos playoffs, parce que c'est encore tôt. Puis, comme tu dis, les équipes en bas de nous sont pas vraiment en meilleur état que nous, mais moi, je pense qu'on fera pas les séries.
La bonne nouvelle de la blessure de Piatti, c'est que tout ça s'est jamais produit avec un terrain synthétique. Comme ça, on a éliminé cette raison-là. À chaque fois que quelqu'un se blesse à cause du synthétique, c'est automatiquement à cause du synthétique. Ouais. Et ça devient la MLS devient ridicule à cause de ça. Donc, tout ça, faut pas l'oublier. Tout ça, ça a été fait sur du beau gazon. Lee Wen nous demande, pensez-vous que Joey Saputo va ouvrir le portefeuille pour aller chercher un gros nom lors du mercato ou il va rester avec sa mentalité où on dépense peu, mais intelligemment?
Ben, je pense que non, vu qu'il va acheter une troisième équipe. Ce qui est sorti aujourd'hui. Je sais pas d'où ça sort, ça, là. Normalement, c'est inattendu. Et je comprends pas, en fait, là, s'il achète une troisième équipe, je sais pas d'où il sort l'argent, je sais pas d'où il va pouvoir en sortir plus pour l'impact. Et même s'il voudrait en sortir plus, on n'a pas de place sur la masse salariale, tu sais. Fait que même s'il voulait, tu sais, il faudrait inscrire Piatti sur la liste d'absence à long terme, mais là, sa saison est finie. Fait que, tu sais, ça vaut-tu la peine? Qui est disponible? Je sais pas.
Je sais que c'est impopulaire de dire ça, là. Moi, je vois pas Joey Saputo comme quelqu'un qui ne dépense pas.
Mais non, je pense que dans les masses salariales, on est dans les équipes qui ont la plus grosse masse salariale, non? Qui dépensent le plus d'argent pour des salaires, si je ne me trompe pas. Là.
Oui, et puis Joey Saputo comme propriétaire de la MLS, moi je suis en confiance. Là. On n'aurait pas pu avoir un meilleur propriétaire que ça. Là. Tu sais, c'est vraiment facile de dire quoi faire avec l'argent des autres. Là. Mettez-vous à sa place réellement. Allez-vous chercher comme ça un gars à 5 millions pour l'Impact de Montréal? En te disant, ça va rapporter.
Oui, parce que tu sais, maintenant, on regarde Atlanta, on regarde LA, on regarde tout ça, mais c'est notre réalité ici. Là. Tu veux dire, on n'a pas le même attrait non plus. Est-ce que tu risquerais 5 millions l'année pour un Samir Nasri maintenant, tu sais, en genre de panic buy? Genre? Je pense pas que c'est une bonne idée. Là.
Ben pour deux semaines, ça pourrait être drôle.
Ça serait fou. Mais faudrait shipper Novilo quelque part d'autre. Là. Les deux ensemble, ça va être le bordel.
La série, ça doit sortir pas mal, ça aussi.
Ah, c'est clair.
Et bon c'est boy.
Ouais, il est en poule mouillée tout le temps.
on serait moins en danger à Trois-Rivières. Ça doit... Non, cool qu'à Trois-Rivières, ça fête pas mal. Bref, on est dans. Antoine Baudin nous demande, tant qu'à faire des joueurs qui n'ont plus de marge de manœuvre avec Azira, Bush, Cabrera, Lovitz et l'autre qu'on ne doit pas donner son nom, pourquoi on ne fait pas jouer nos jeunes qu'on a avec Shomi, Kroiki, Baya, Broguillard et ne pas faire justement jouer les Kunumbé et ainsi de suite? Ça, c'est souvent la phrase qu'on entend quand on se met à perdre.
Ouais.
Dans tout sport confondu. Ouais. Mais je comprends son point. Et effectivement, c'est vrai que tes joueurs de rotation, ceux qui sont là, sur le banc, doivent pas être des Uruti, des Lovitz, des Cabrera, tu sais. Oui, je suis d'accord. Il faut que ceux qui peuvent prendre la place, ça soit des gars de l'académie. Il faut que l'académie serve à challenger des titulaires. Ouais. Si on est pris pour avoir des gros salaires sur le banc, là, on a un problème, c'est sûr. Puis là, on commence à dire aussi bien avoir des showmates. Mais avoir 11 showmates sur le terrain et perdre 3 matchs sur 4, c'est pas mieux.
Non, c'est clair. Mais ils vont pas plus apprendre. Ils vont juste décourager, je pense. Puis la confiance est importante aussi pour les jeunes. Mais tu sais, le problème, c'est effectivement quand on avait Camacho, Cabrera et Novillo pour le 3/4 des matchs sur le banc. Tu sais, ça fait pas de sens. Mais son point, je le comprends. Tu sais, par exemple, Azira à domicile titulaire, tu sais, à la place de Chaumet, ça m'a dérangé un peu personnellement.
Ah là là.
Surtout à la maison, tu sais, je veux dire, ouais. Chaumet est plus offensif. Azira, il t'amène rien offensivement. Encore une fois, à l'extérieur, je mets Azira devant Chaumet. 100%. Mais à la maison, tu sais, je sais pas.
Étienne Bélanger nous pose une question avec une seule réponse permise avec explication. Qui est, on a des conditions, c'est incroyable. C'est notre show, puis on se fait venir. Étienne Bélanger nous dit qui est le joueur qui doit absolument partir.
Oui, juste un.
Un et pourquoi?
Je vais dire Camacho, parce qu'il prend beaucoup trop de place sur la masse salariale et il joue pas du tout, en fait. Quand il joue, c'est une catastrophe.
Ouais. Probablement, j'aurais dit la même chose jusqu'à hier.
Ouais. Ouais.
Novillo, c'est fini.
Ouais, mais je veux dire, t'sais... Ouais. Non, c'est vrai. Mais je veux dire, tu peux... Honnêtement, t'aurais pu juste mettre Novillo à place de Camacho et la même explication.
La même...
Ça marche.
Mais là, ce qu'on entend, c'est que Novillo est en train de pas seulement nuire sur le terrain, mais en dehors du terrain.
Ouais.
Ouais. Moi, ce que je vois de Camacho, c'est ces temps-ci, c'est qu'il amène ses enfants
mais
à tu
vois,
des
la,
jeux.
La seule raison,
à des jeux plus. Familiales, donc ça va. si c'est calmé, Camacho, depuis qu'il est à Montréal, OK, on prend l'argent, on s'est fait avoir. Mais là, si Novillo est en train de scraper les jeunes de Montréal, chez toi, là, c'est beau. Rien plus ici.
Honnêtement, j'hésite entre les deux. J'ai juste dit Camacho parce qu'on a comme trop de défenseurs centraux puis on n'a pas assez de joueurs offensifs.
C'est vrai.
C'est juste vrai. Pour ça. Mais après, t'as raison. Je veux dire, on peut pas le garder juste parce qu'il nous manque des joueurs, mais il arrive sous tout le temps aux entraînements. Là. C'est un peu moyen. Là. Et il pourrait jouer avec Ronaldinho. Ils ont le même,
comment?
Il pourrait jouer avec Ronaldinho. Il pourrait s'entraîner avec Ronaldinho, en fait. Ils ont le même train de vie.
Les deux ont des problèmes de passeport. Matteo Marquez, est-ce que vous croyez à la possibilité que Novillo soit prêté? Non, Ottawa à cause de son manque de professionnalisme. Ah, toi, ça, c'est une belle ville pour lui, ça, Ottawa.
Ah, il va s'ennuyer.
C'est proche de Gatineau.
Ouais. Ouais.
Non, mais il y a plusieurs questions sur Novillo, là, puis vous allez voir, allez voir mes tweets. Là. Au niveau convention collective, c'est hyper compliqué de se débarrasser d'un contrat dans MLS.
C'est peut-être qu'il va pigner à l'interne, tu sais, genre il va être suspendu ou un truc comme ça. Mais...
Oh, il a probablement déjà été suspendu une semaine avec son histoire de passeport. Là, puis,
ouais, c'est vrai.
Moi, ce que j'aimerais, c'est voir les prochains meetings entre Gilmore et Gab. Il va y avoir beaucoup de questions, là.
C'est clair. Mais c'est clair, Novillo, là, c'est un sujet chaud. Là, en même temps, j'étais un peu d'accord avec Philosa quand il dit que tu sais, quand un gars a problème de même, si tu le gardes puis tu continues à faire... Tu peux plus le faire jouer, là. Je veux dire, c'est quoi le message que tu envoies aux autres? Tu dois avoir quelque chose.
Justement, concernant Gilmore, Kevin Duskin nous demande, malgré qu'il n'est pas trop top là, au côté foot, puis il avait même dit qu'il ne voulait pas être impliqué dans ces conversations-là, Gilmore a une responsabilité dans tout ceci. Comment devrait-il interpréter son manque de... Comment on devrait interpréter son manque de commentaires publics? Il dit créer un produit, mais son narratif se contredit. À quelle place trouverons-nous sa responsabilité?
Wow, c'est une bonne question. C'est vrai que son premier discours et les actions qu'on voit depuis, c'est moins excitant, tu sais, depuis qu'il parlait, quand il était à Tout le monde en parle et tout. Mais en même temps, je pense que c'est un truc qui se fait étape par étape. Là, tu peux pas arriver du jour au lendemain puis... Mais moi, honnêtement, ce qui m'a déçu, en fait, c'est que oui, il a mis des panneaux partout, là. Ça, c'est le fun. Mais il n'y a pas eu.
Des panneaux, c'est ben, tellement.
Je suis d'accord avec toi, tu sais. C'est vraiment cute.
Ils sont où, les panneaux? Là, ils sont là, les panneaux. Il ne s'est rien passé.
Il manque juste qu'on passe des pamphlets, genre. Mais tu sais, ce qui m'a vraiment déçu, c'est genre, il n'y a pas eu de. campagne de publicité énorme, genre. Tu sais, genre, un truc...
Ben again. Ouais, on dit souvent...
Un truc que tout le monde va en parler. C'est un truc qui va être aux nouvelles, qui va être...
C'est long. C'est long, un processus comme ça. Je veux dire, il faut établir clairement, avant de rencontrer une agence de pub ou quoi que ce soit, il faut établir clairement notre stratégie de communication. Ouais. J'ai entendu plein de monde dire que la stratégie de communication de l'Impact de Montréal, c'est les familles. C'est basé sur quoi? Et où la communication famille de l'Impact de Montréal? Il n'y a pas de communication. La seule stratégie de pub qu'il y a eu, c'est à la première saison où il y avait le truc qui était sympathique, là, l'équivalent de We the North, là, où on protégeait notre territoire, tout ça, on voyait l'hiver. Tu sais, il y avait un axe de communication clair. Tu sais. Depuis, il n'y en a pas. Mais établir ça, là, il faut que, tu sais, malheureusement, le rôle d'un président, c'est du long terme, ces effets. Là, on le voit pas. C'est pas comme un coach. Même un coach, on dit souvent, il faut attendre 6 mois pour voir les impacts. Imagine un président, c'est tellement long là, à produire du contenu puis des actions concrètes. T'sais, lui, présentement, il y a des questions à poser sur l'utilisation de la masse salariale au coach. Mm-hmm. Ensuite, le coach, lui, va peut-être challenger le fait qu'il n'y a pas les structures, qu'il n'y a pas la structure monétaire pour faire ce qu'il doit faire. Puis ça, c'est du back and forward qui va rester privé, puis qu'éventuellement, on va voir le clash arriver parce qu'il y a le contrat de Rimiga de renouveler. Mais, tu sais, oui, tu sais, comme tu disais, c'était beau. En début de saison, il y avait juste du positif comme discours. On pouvait rien lui poser comme question. Ça va être sûrement à la fin de la saison qu'il va falloir poser des questions puis lui demander clairement c'est quoi son plan pour passer à l'étape suivante. On le voit déjà un peu plus, c'est quoi? On a peut-être des signes un peu, tu sais, les signes qu'il nous a présentés, c'est probablement les infrastructures du stade qui sont améliorées, aller chercher l'argent corporatif, ainsi de suite. Mais ça, c'est tout ce qui est en dehors de foot. Tu sais, terrain, c'est en dehors de sa responsabilité. Une fois, éventuellement, quand Rémi Garde va partir ou le fait de le prolonger, la décision sera la sienne, mais une fois que ça s'est fait, une fois que le staff est établi, après, on devrait plus entendre parler de Gilmour.
Non, c'est clair. Non, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, il faut le laisser du temps. Mais moi, je m'attendais, vu qu'il y a un changement et tout ça, je m'attendais à au moins un truc un peu spectaculaire en arrivant. T'sais, pourquoi pas, ben, encore une fois, je ne sais pas, je ne veux pas lancer les idées de même, mais un truc peut-être qui frappe plus fort dans son arrivée pour faire comme, OK, l'impact est présent à Montréal. Puis on l'a pas vraiment vu.
Les panneaux, tu as eu les panneaux.
Ouais, mais...
Il y a deux gros panneaux au pont. Voilà. Ouais. On les a eus. On l'a demandé, on les a eus. Ralph Delarose nous demande match contre Seattle avec une formation ultra défensive. La question de ne pas se faire massacrer. quel genre de formation qu'on va avoir contre Seattle? T'sais, si on fait l'exercice, là, c'est. Comme tu as dit, on a 3 défenseurs pour 4 postes.
Ouais.
À moins qu'on joue en 3-4-3, c'est... mais même à ça, il nous faut quand même quelqu'un à gauche.
Ouais.
Donc, on va pas. Avoir.
Levitt, est-ce qu'il va avoir la Gold Cup? Non.
Ben, il était appelé. Oh, dans le... cool. Ben, il est dans le groupe élargi. Donc okay,
je pense pas qu'il va rester.
Non, mais il va au moins manquer le match de mercredi.
Ah, c'est vrai. Aïe, aïe. Attends, forfait, on perd juste 3-0, non? mais sérieux, regarde, il y a du travail de bricolage à faire. Hein? T'as plus de latéraux. Tu sais, si Sagna peut pas jouer, tu sais, une entorse. 4 jours avant, si tu n'as plus de latéraux, comment tu joues? Tu peux pas jouer sans latéraux, sans latéral. C'est top, hein?
Peut-être au routier à gauche. au routier, le pauvre.
Raitala n'est pas là non plus.
Non.
C'est seulement en Finlande. Aïe, aïe.
Ouais.
On a vraiment juste Diallo, Cabrera, Camacho.
Ouais.
Kinoumbé, il joue. Défenseur droit, non?
Ouais, mais le mot-clé, c'est défenseur, donc.
Il peut jouer peut-être à gauche, puis Sagna à droite, genre.
Mm-hmm.
Tiger Bomb sur la cheville, c'est correct. ouais, ça va être tough. Ça va être tough.
Anthony Bellil nous écrit, depuis la fin de 2016, l'impact, c'est 0 série.
Mm-hmm.
0 participation à la Ligue des champions. Ouais. Donc, 0 trophée du championnat canadien. Mm-hmm. 2 joueurs désignés offensifs de qualité qui ont préféré quitter.
Out.
Ouais. Mm-hmm. Malgré les circonstances difficiles, il y a obligation de. Ah, oh, c'était juste. Il n'y avait même pas de question. Malgré les circonstances. circonstances difficiles, il y a obligation de résultat. Ouais. Ben, quoi dire de plus? Je suis bouché. Ouch. Je cherche une autre question. Tout le monde parle des playoffs qui parlent. Ouais, c'est la débandade totale. Ouf. Juste une affirmation de Dr. Gab au rythme, ça va, ce sera nos playoffs. La Gold Cup sera un coup de grâce. Ouais.
Je suis d'accord avec
la
lui, Gold Cup. Moi aussi, je pense que cette pause-là va faire très, très mal. Surtout au moral.
Mais on a une semaine de plus. Mais on a une semaine de plus qui peut-être nous aider. Tu sais, le parcours canadien, on ne se rendra pas en finale non plus. Donc, on peut espérer un retour assez rapidement de nos joueurs comme ça. Puis, ouais. Et en plus, tu sais, le mercato, il s'ouvre seulement le premier. Oui, on peut annoncer des signatures là, entre-temps, mais un joueur ne sera pas disponible avant le, je crois, 9 juillet. Donc, tu sais, ça peut pas être une, on ne peut pas trouver une solution externe.
Ouais. Non, c'est ça
peut être très, 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 très long. Voyons, j'ai perdu mes questions. Quelqu'un veut qu'on parle de la CFL à la place, non? Sérieusement.
Ouais, j'ai vu quelqu'un, je passe tes sons. Qui avait dit que laquelle saison est de la pire, l'Alouette ou l'Impact? Tu sais, je trouvais ça drôle, par contre.
Au moins, on a un propriétaire, là.
Ouais. Ouais, j'avoue. Et j'ai vu qu'il y avait. J'ai peut-être mal compris, il y avait le groupe d'Éric Lapointe qui voulait acheter les Alouettes. C'est-tu le Éric Lapointe?
Ben, il y en a deux, Éric Lapointe. Il y a le chanteur, puis il y a le joueur. Toi, tu penses au chanteur, probablement?
Ben oui. Moi, si Éric Lapointe, TQR achète l'Alouette, des Alouettes, j'achète des billets de saison. Juste qu'il soit coach aussi.
Ah, tu me déçois. Non, c'était Éric Lapointe, l'ancien porteur de ballon, Éric Lapointe. Non. Après, on a eu Gouzeau.
Ouais, mais les deux, ça n'a pas marché, finalement.
Non. Ça, grosse parenthèse, le CFL, puis je connais absolument rien de la CFL, mais j'aurais aimé Gouzeau parce que là aussi, il y a eu du potentiel de drama assez solide, parce qu'avec lui, le long fleuve, le tranquille, ça semble pas être une option bien pour lui.
Ouais. Mais tu sais, ils ont fait un rebranding, les Alouettes, c'est pas mal beau, en fait, c'est leur logo, les uniformes, ils avaient fait un party avec, genre, Vice comme associé, comme collaborateur, c'était quand même nice.
Ouais, mais quand tu finis 2 mois plus tard avec des histoires où finalement t'as plus de propriétaire, tout ça, c'est assez perdu.
Ouais, c'est vrai que c'est poche.
Bon, petit dernier truc avant de terminer ce podcast-là. On est avant la game des Raptors?
Yes, hey, on a fait ça tôt juste pour l'avoir.
Le premier match est fait, là on est avant le deuxième match, donc probablement quand vous allez écouter ce match-là, vous allez rire de nous. Mais est-ce que tu y crois à cette deuxième victoire des Raptors?
Oui, j'y crois. Kevin Durant n'est pas là. Ils sont confiants. C'est comme moi, le premier match c'était le plus important parce que là ils sont au courant, ils savent qu'ils peuvent les battre. Et ça pour moi ça change tout parce que Golden State a l'air imbattable. Et tout le monde disait ça prend un miracle pour les battre. Et là, ils n'ont pas fait un match miraculeux. Ils ont juste... Tout le monde a été très bon. T'sais, c'est rare que ça arrive, mais ils sont capables de le faire. Puis ils l'ont fait une fois. Et ils ont toujours été devant Golden State. Et c'est rare. Ouais. Golden State qui court après une équipe pendant 4 quarts, c'est très rare. Là.
Ben, tout le monde écrivait sur Twitter. Tout le monde était en attente du fameux run de New England. De Golden State. Puis il n'est jamais arrivé.
Ouais, ils en font toujours un au troisième quart d'habitude. Et là, ça ne s'est pas du tout passé. Mais oui, je pense qu'ils sont confiants, ils peuvent le faire. Mais ouais, ça va être difficile parce qu'encore une fois, si Akam il est tiré à 82%, là, chose qui arrive jamais.
C'est fou.
Il va plus le faire. Là. Je veux dire, d'habitude, tu tires.
As-tu vu son entrevue en français?
Ouais, c'était cool ça. C'était très cool. Quand il a demandé No French Questions, ouais, c'était très nice.
Oui, c'est. Voyons, je me souviens plus de son nom. C'est
Radio-Can, non?
Oui, de Radio-Can. Ah,
Olivier, non? Ouais.
Oui.
Ouais.
C'était vraiment cool. Puis quelqu'un a écrit sur Twitter, et c'est vrai, l'accent de Siakam est pratiquement un accent québécois. C'est drôle.
Ouais, c'est vrai que moi, je m'attendais à un accent français, tu sais.
Non, mais c'était... Franchement, cette équipe-là est tellement agréable à suivre. Tu sais, tout ce qui tourne autour des Raptors est agréable. Je veux dire,
Sauf Drake.
Toi, ça commence à s'énerver.
C'est un bon troll, par contre. Non, moi, honnêtement, il m'énervait plus avant qu'en finale. Je trouve que là, il a juste été troll, genre. Il a juste été drôle.
Mais,
quand il est troll, c'est correct. Mais des fois, il fait son tough. Puis quand tu fais ton tough, t'es comme arrête là, t'es pas dans l'équipe là.
Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, quand je vois Drake sur le bord de ligne là, ça me fait penser à moi pendant l'Euro 2016. Ouais, j'étais aussi dégueulasse que ça.
Ouais, c'est clair. Mais tu sais, en même temps, je me dis moi à sa place, je pense que je fais la même chose. T'sais.
Ben oui. Mais c'est une belle leçon de clash de génération. C'est fou là comment que les journées. C'est des gars pratiquement plus proches de mon âge que d'autres choses. Ouais. Mais c'est des journalistes de tradition hockey white. Ouais, so white, tu sais, je veux dire.
qui
comprennent pas ce qui se passe, qui sont si fâchés. Puis après, voir un Draymond Green dire « Ben non, c'est correct qu'il fasse ça. » Tu sais, il vient tout défaire l'argumentaire.
Ouais, exactement.
De
j'ai aimé ce qu'il dit.
Les joueurs eux-mêmes trouvent ça drôle. Tu vois, Steph Curry qui est crampé parce que ça leur dérange pas parce qu'ils ont compris que ça fait partie de la culture, tu sais, puis que t'es pas obligé de regarder un maudit match d'un autre sport que le hockey en comparant toujours au hockey. Oui, quand tu regardes quelque chose en utilisant juste ton filtre, tu finis toujours par avoir l'air ridicule.
Ah, c'est clair. Puis tu sais, j'ai vu un journaliste à Montréal, un anglophone, qui disait « Ah, c'est drôle, à Toronto, maintenant, tout le monde est expert du basket. » Avant, ils savaient pas c'était quoi un pick and roll. Je fais comme... Tu sais, ici au Canada, les Canadiens, quand ils font les séries, hein, tout le monde devient expert de du hockey. Genre. C'est la même chose. Hey. Genre. Laisse la hype. Genre. C'est juste le fun. C'est juste agréable.
C'est partout
genre.
Comme ça. Je veux dire, toutes les compagnies, toutes les entreprises québécoises se préparent 2-3 mois à l'avance. Qu'est-ce qu'on va faire pour les séries éliminatoires des Canadiens? Ils veulent tous se coller. C'est naturel parce que les gens vont suivre l'histoire haute de la journée.
C'est clair. Puis comme tu as dit, les Raptors, c'est tellement une belle équipe. Hein. Laissez-les. Hein.
Ouais, c'est peut-être ça qui nous manque à Montréal. C'est pas nécessairement les victoires. Hein. Toutes les villes aiment les victoires, mais ce que les villes aiment encore un peu plus, c'est les histoires sympathiques et intéressantes.
Et en plus, Kawhi, c'est la super vedette parfaite pour le Canada. Parce qu'il est super humble. T'sais, il parle pas. Il est super poli. T'sais, il est pas arrogant du tout, mais il est extraordinaire sur le terrain. T'sais.
Il s'excuse quasiment de gagner.
Ouais, exactement.
Bon, mais je pense que ça va conclure notre podcast. Je pense à ça, ça risque d'être notre quoi. Bon, on va peut-être en faire un autre la semaine prochaine, même s'il n'y a pas de match, pour faire une espèce de petit bilan de saison ou pour parler des dernières rumeurs catastrophiques de l'Impact de Montréal. Un gros merci à Alec d'avoir remplacé Sofiane. Sofiane, c'est faux, c'est faux que Sofiane se cache pendant les mauvaises performances de sa fille.
Il suit Navilo, c'est lui le journaliste qui a leak.
Sinon, on essaie de convaincre Sofiane de nous faire au moins un petit 10 minutes pour nous expliquer à nous, les pauvres humains qui ne comprennent pas ce qui se passe avec sa fille. Donc, éventuellement, il aura 10 minutes de disponible. Il va tout nous expliquer. On va tout comprendre ce qui se passe avec sa fille. Parce que, dans le fond, sa fille joue bien, c'est juste qu'on ne voit pas bien. N'est-ce pas?
On ne comprend pas. Il est avant-gardiste.
mais bonne semaine à tous. Puis à bientôt. Ciao.
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.